De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, difficile de se faire une idée sur le moment opportun pour ouvrir les salles de cinéma. Alors on sait déjà qu'elles n'ouvriront pas immédiatement après le 11 mai, impossible de donner une date aux habitués des salles de cinéma. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas non plus de festival de Cannes, ni en mai, ni fin juin, comme c'était envisagé au premier abord. Et là encore, eh bien, difficile de dire quelle forme ce festival pourrait prendre cette année. Alors peut-être un festival virtuel, une manifestation à la rentrée en septembre ou un peu plus loin, il faudra encore attendre pour avoir les réponses. Quant à Cinérama, si l'équipe a fait une croix sur son séjour à la Croisette, on continue chacun chez soi de vous fournir du contenu d'actualité. On profite évidemment des sorties VOD en masse de ce mois d'avril pour vous parler de films qu'on a pu voir. Ainsi, Marine, eh bien, vous parlera de La Voix de la Justice, un film sorti en janvier mais qu'on n'avait pas eu le temps de chroniquer, et de Un divan à Tunis, sorti en février et qu'on avait également mis sur la touche à l'époque. Quant à Manu, il a décidé de vous parler de films de patrimoine sortis par l'éditeur Carlotta, Schlock, réalisé par John Landis, Basket Case et le fameux Schizophrénia, film fétiche de Gaspard Noé. Quant à moi, eh bien, je me contenterai de rediffuser la chronique sur 1917, le film de Sam Mendes qui méritait bien un grand écran, mais qui vous donnera aussi du plaisir sur un tout petit écran. Et ce sera l'occasion de rediffuser également, eh bien, le blind test que nous avions fait autour des films sur la guerre 14-18. Mais avant tout cela, on fait le point sur les petites choses gratuites que vous pouvez trouver sur internet pendant cette période de confinement qui laisse à certains beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps, et c'est tant mieux.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Le confinement peut avoir du bon, c'est qu'il laisse du temps et que certaines initiatives en exigent. Le site Open Culture s'est chargé de répertorier, eh bien, une liste de 1150 films disponibles gratuitement sur Internet, ce qui pourrait intéresser ceux qui n'ont pas d'abonnement à Netflix, Amazon Prime, OCS ou encore MyCanal. Alors dans cette liste, il y a de tout. Et heureusement, ils ont eu l'idée, eh bien, de les classer, ces films. On trouve par exemple 70 films en HD du studio russe Mosfilm, disponibles sur la chaîne officielle YouTube du studio. De quoi voir des Tarkovsky, Eisenstein et Kurosawa. Du côté des courts-métrages, on peut voir ceux de Tim Burton, David Lynch ou Quentin Tarantino, et même un improbable Crash, qui est adapté du roman de J.G. Ballard, qu'avait mis à l'écran Cronenberg en 1996. Ce court-métrage, lui, de 71, met en vedette le romancier J.G. Ballard lui-même. Dans les rayons des incontournables, on retrouve Nosferatu ou Metropolis, et puis certaines trouvailles vous permettent d'aller plus loin avec un film ou un réalisateur. C'est le cas pour 2001, L'Odyssée de l'espace. Alors, non seulement on trouve A Look Behind the Future, un documentaire qui nous emmène à l'intérieur de la réalisation du film de Kubrick, 2001, L'Odyssée de l'espace, et les technologies que ce film convoquait. Et toujours à propos de 2001, on trouve un autre documentaire de 1960, celui-ci intitulé Universe. C'est lui qui a inspiré les effets visuels du chef-d'œuvre de Kubrick et qui a donné sa voix à HAL 9000, l'intelligence artificielle du vaisseau. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut trouver. Vous avez de quoi faire en vous baladant à l'intérieur des différents classements faits par le site Open Culture, entre les comédies et les drames, les films noirs d'horreur, une section Hitchcock ou une autre avec des westerns, dont beaucoup avec John Wayne, des films d'arts martiaux, des films muets, des documentaires et des films d'animation. Alors c'est souvent en anglais. Dépêchez-vous d'aller voir sur openculture.com/freemovieonline.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
On passe à la première chronique de films sortis en VOD ce mois d'avril. On vous parle de La Voix de la Justice, sortie en janvier. C'est Marine confinée chez elle qui s'y colle.
Il est ordonné, statué et décrété que Walter McMillan sera exécuté par électrocution.
C'est mon père, monsieur.
Asseyez-vous, jeune homme.
John, assieds-toi maintenant.
Il a rien fait de mal.
Monsieur le Président, un instant.
Je ne vous le répéterai pas. Asseyez-vous.
Pas si vous tuez mon père sans raison. Vous tuez ma famille, monsieur!
La voix de la justice, dont le titre anglais est Just Mercy, que l'on peut traduire par juste un peu de compassion, retrace les débuts du parcours de Brian Stevenson, un jeune avocat noir débutant à la fin des années 80, qui décide de se rendre dans l'état historiquement raciste de l'Alabama afin de défendre des condamnés à mort, majoritairement noirs et pauvres. C'est Michael B. Jordan qui interprète ici le rôle principal. Il est d'ailleurs à l'origine du projet et l'un des producteurs principaux. Michael B. Jordan, pour resituer un peu, est actuellement l'un des acteurs les plus prometteurs d'Hollywood, un acteur qui a su alterner blockbusters musclés et films indépendants. Il est notamment la relève de Rocky Balboa dans Creed et le méchant dans Black Panther, mais il est également le héros victime d'une bavure policière dans Footival Station, film à partir duquel il fera preuve d'un engagement politique marqué, que ce soit dans la lutte pour le droit des femmes ou pour le droit des personnes noires. Face à lui dans La Voix de la Justice, Jamie Foxx interprète le prisonnier Walter McMillian, qui lui aussi a réellement existé et qui fut condamné à mort en 87 pour meurtre sur un faux témoignage et à l'issue d'un procès bâclé. Le film retrace donc le combat de l'avocat Stevenson pour faire réouvrir le dossier et demander l'acquittement de ce McMillian dont l'innocence, pour lui, ne fait pas l'ombre d'un doute. Il dresse également le portrait édifiant, sans concession, d'une justice américaine ouvertement raciste et classiste, un portrait malheureusement encore d'actualité 30 ans plus tard. Comme l'explique le film, au moins une personne exécutée sur 10 s'avérerait par la suite être innocente et les personnes noires appartenant aux classes sociales les plus pauvres sont plus touchées par les erreurs judiciaires.
Il est clair que ce procès est bâti sur des mensonges. Quand on met un noir dans le couloir de la mort un an avant son procès, quand toute preuve attestant de son innocence est étouffée et que tous ceux qui essayent de dire la vérité sont menacés, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas bien.
Le réalisateur du film Destine Daniel Crichton retrouve ici Brie Larson, l'actrice qu'il avait révélée dans State of Grace, un film extrêmement réussi qui racontait la vie d'une bande d'éducateurs spécialisés. Il poursuit dans cette veine du cinéma social avec La Voix de la Justice, mais dans un style nettement moins indé, beaucoup plus grand public, et sacrifie quelque peu son originalité pour délivrer un film au message universel. La Voix de la Justice est un beau film dramatique dont les intentions sont très louables et le sujet important, mais beaucoup de situations, malheureusement, sont très attendues, voire assez clichés. Heureusement, le casting est excellent, le propos est fort et le message que le film délivre est plein d'espoir.
Votre vie compte toujours. Et je ferai tout mon possible pour que personne ne vous la prenne.
La Voix de la Justice fait partie des films exceptionnellement disponibles en VOD depuis le mois d'avril. Ressortons maintenant une archive de l'émission. Retrouvons un passage de l'émission de janvier dernier où je vous parlais de 1917, film de Sam Mendes, et nous en profitions pour jouer à un blind test. En période confinée, il est compliqué pour l'équipe de vous en fournir un original.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Vous avez un frère au 2e bataillon ?
Oui, mon général.
Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre.
1917 est en course pour les prochains Oscars. Ce film qui nous plonge dans la Première Guerre mondiale a déjà valu à son réalisateur, le Britannique Sam Mendes, la récompense du meilleur réalisateur et meilleur film au dernier Golden Globe. Un succès critique bien mérité pour un film inventif et immersif. Les millions de dollars qu'il a coûté se voient à l'écran. L'originalité de 1917, c'est de nous raconter une histoire en un plan séquence de 2 heures. Alors évidemment, il s'agit de plusieurs séquences mises bout à bout, mais les glissements sont si bien faits qu'on ne se rend compte de rien. Les enjeux de 1917 sont simples. Sur le front français, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission qui paraît impossible. Ils doivent porter un message à une troupe aux avant-postes qui prévoit de faire une attaque malheureusement vouée à l'échec, se soldant par la mort de milliers de soldats britanniques. Supplément dramatique, dans cette troupe, on trouve un lieutenant qui n'est autre que le frère du jeune Blake.
Si on en parlait 2 minutes...
Pourquoi ?
On a l'ordre de traverser ici.
Là, c'est le front allemand.
Tenez bon !
Si on s'y prend mal, personne n'arrivera à rejoindre ton frère.
Ça ne peut se terminer que d'une seule façon.
Durant quasiment deux heures, nous sommes donc aux côtés de soldats qui vont devoir rejoindre les lignes ennemies. La caméra, une steadicam quasi aérienne, se place devant, derrière, sur le côté, selon les scènes qui sont chorégraphiées au millimètre. Les plans ne sont pas seulement des plans serrés, on a toute une grammaire cinématographique qui s'exprime ici. Sam Mendes fait la part belle à la campagne avec ses longues crêtes. On traverse les tranchées, on entre sous terre dans les boyaux creusés par les Allemands. On traverse un village désolé, simplement éclairé à la fusée. Si le temps est celui du présent, les espaces ne cessent d'évoluer. Alors on navigue des grands aux petits espaces, de la nature avec la vache qui broute tranquillement, au champ de bataille avec ses cadavres puants. La grande idée de ce film, c'est de présenter la Première Guerre mondiale, cette guerre de tranchées, statique, avec des personnages qui doivent être en perpétuel mouvement, permettant d'offrir un éventail de décors qui peuvent paraître inhabituels pour un tel récit. Mais Sam Mendes s'est aussi ménagé bien des temps de repos, tous remarquables, là encore, en termes de mise en scène, le son, l'image, le montage concourant à en faciliter la compréhension par le spectateur. Cette mise en scène brillante qui nous plonge un temps donné dans le conflit est accompagnée d'un univers sonore soigné, qu'une musique légère et des nappes discrètes viennent parfois brouiller, mais surtout par une lumière exceptionnelle. Nous ne sommes pas dans une vision naturaliste, ni expressionniste ou même réaliste, mais encore ailleurs, dans un entre-deux où il ne fait jamais ni trop beau ni trop mauvais. Les séquences de nuit sont remarquables, tournées à la lampe à pétrole, à la fusée éclairante ou au détour d'un incendie. 1917 est un film maîtrisé qui fait aussi le pari de mettre en avant deux acteurs peu connus du grand public, l'impressionnant George MacKay, vu dans Captain Fantastic, c'était l'aîné des frères, et Dean Charles Chapman, qu'on peut voir dans Game of Thrones. Il réserve les acteurs les plus connus au rôle de gradés comme Mark Strong, Benedict Cumberbatch ou Colin Firth. Ces personnages viennent parsemer le récit et donnent une autre vision du conflit. Alors, autre parti pris intéressant de Sam Mendes, il met volontiers en avant les visages, les corps de jeunes soldats, de quoi permettre peut-être une facile identification avec les jeunes spectateurs qui n'ont pas connu de conflit armé pour une immense majorité d'entre eux et qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion d'entendre des histoires de guerre, en tout cas des deux guerres mondiales, racontées en famille. Sam Mendes, lui, a tiré cette histoire des récits que faisait son grand-père, soldat engagé pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, je ne sais pas, je peux vous prendre à témoin, est-ce que vous avez entendu, vous, des récits de la Première, Seconde Guerre mondiale ? Ce n'est pas si évident.
Quoique moi si, mais c'est parce que mon grand-père est mort à 108 ans, donc il a eu le temps de... Enfin voilà, mais bon, je sais que ça gâte. Voilà.
Absolument pas. Hein.
Voilà. Les plus beaux films sont souvent marqués par le saut d'une évidence. La première et la dernière image, quand on les rassemble, on dévoile la pertinence. Alors là, soyez attentifs, car si Sam Mendes nous emmène dans la guerre, c'est pour raconter autre chose de plus souterrain qui n'apparaît pas au premier abord, mais en... plaçant cette première image et la dernière image du film, enfin voilà, j'ai eu une espèce de petite révélation et j'ai trouvé ce film formidablement accompli. 1917 de Sam Mendes. Évidemment, je vous le recommande et ça donne l'occasion donc de jouer un blind test où il va falloir découvrir au travers de 5 extraits que l'on va écouter des films qui se déroulent pendant la Première Guerre mondiale. Premier extrait.
Mon seul propos était de vous rappeler l'héroïsme dont ces hommes ont fait preuve en toute occasion dans le passé.
Nous ne nous occupons pas du passé, nous nous occupons du présent.
Mais mon général, ce ne sont pas des lâches. Donc si certains n'ont pas quitté les tranchées, c'est sans doute parce que c'était impossible.
Ils avaient l'ordre d'attaquer. Leur devoir était d'obéir à cet ordre. Nous ne pouvons laisser les hommes décider si un ordre peut être exécuté. S'il ne pouvait pas l'être, la seule preuve convaincante eût été leurs cadavres jonchant le sol des tranchées. Ce sont des pleutres. Tout ce foutu régiment est un ramassis de voyous, de larves et de tirs au cul.
Vous en êtes convaincu, mon général ?
Je le suis. C'est exactement ma conviction. Et qui plus est, c'est un fait incontestable.
Film beaucoup plus optimilitariste que 1917, c'est...
Les Sentiers de la Gloire.
Et oui, des soldats traduits devant le Conseil de guerre pour ne pas être sortis des tranchées. Un film seulement distribué en France en 1975, puisqu'il y a eu une autocensure de la part des distributeurs et producteurs. Les Sentiers de la Gloire, donc de Stanley Kubrick. Deuxième extrait.
On se croirait encore en guerre.
C'est que vous ne l'avez vu que d'assez loin. La guerre est pire. Tellement pire. Des centaines d'hectares avec des centaines de cadavres qui noircissent. Plus un arbre. Des trous pleins d'eau d'où sort un pied, une tête couverte de mouches. Ça pue. Des rats courent par bandes. Mais nous n'arrêtons pas de nous taire. Qui nous écouterait d'ailleurs? Qui nous imprimerait? Les journaux n'en ont que pour le mensonge et le crétinisme galonné. La guerre avec ses allures dévastatrices n'a que l'apparence de la destruction. Je l'ai lu, ça. Signé cher fils général. 1,5 million morts n'ont que l'apparence de la mort. Salaud.
2 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, il faut recenser les soldats disparus. C'est
La vie rien d'autre de Tavernier.
Et avec Philippe Noiret qui a remporté le César du meilleur acteur en 89. Troisième extrait.
Beaucoup de types sont jamais rentrés chez eux après la guerre. On pensait qu'ils étaient morts, non. Simplement, ils s'étaient fait tuer aux archives. Eh bien, Edouard, il voulait que je le tue aux archives. Dans le cahier novembre 18, j'étais sûr de trouver des noms là où les familles n'étaient pas encore informées. Des morts récents, des morts tout neufs en quelque sorte. Il fallait juste que je trouve quelqu'un que personne ne réclamerait. Et puis j'ai trouvé un type de l'assistance publique, Eugène Larivière, impeccable. Les gars de l'assistance, déjà quand ils sont vivants, on s'occupe pas beaucoup d'eux, mais morts. Alors ce jour-là, Edouard Péricourt, il est mort le 9 novembre 18 à la côte 113. Et puis Eugène Larivière, ben, il allait mieux.
Encore une histoire de disparu, une arnaque au monument aux morts par 2 rescapés de la guerre dont l'un porte un masque.
Au revoir là-haut.
Oui, film d'Albert Dupontel, sorti en 2017 et qui a valu 5 Césars, dont celui de meilleur réalisateur, meilleure adaptation et costume. Allez, un grand classique.
Moi, c'était avec une brune. À qui se fier ? Une amie de ma mère, une dame tout ce qu'il y a de respectable, qui s'occupait de bonnes œuvres.
C'est pas de veine, parce qu'en général, chez les gens bien, c'est plutôt la vérole. Pas vrai, Boieldieu ?
Ah oui, ce fut longtemps un privilège, mais il se paie, hein. Comme les autres. Tout se démocratise. Ainsi, le cancer et la goutte ne sont pas des maladies d'ouvriers, mais le peuple y viendra, soyez-en sûr.
Et les intellectuels ?
Les intellectuels ?
Ah, nous, c'est plutôt la tuberculose.
Tiens, un monsieur Pindard. Ah, et les bourgeois, alors ? Et
des maladies de foie, d'intestin. Ils mangent trop. En somme, chacun mourrait de sa maladie de classe. Si nous l'avions la guerre pour réconcilier tous les microbes.
Alors, des soldats français détenus, mais des évasions, c'est...
La grande illusion de Jean Renoir.
Film de 1937 avec évidemment Jean Gabin. Dernier extrait.
J'ai entendu hier soir au sujet de votre femme. Et si vous voulez, je peux faire passer du courrier pour elle.
Pourquoi feriez-vous ça ? Si vous faites prendre...
C'est pas votre courrier qui nous empêchera de gagner la guerre. Et puis, quand nous aurons pris Paris et tout ça sera fini, eh bien, vous nous inviterez à boire un verre rue Vavin ?
Vous vous sentir obligé d'envahir Paris pour prendre un verre chez moi, vous savez.
Un film qui rassemble plusieurs épisodes de fraternisation survenus en différents endroits du front pendant Noël.
Oui, je crois que c'était Joyeux Noël et c'était Daniel Brühl qu'on entendait ça avec Guillaume Canet.
Tout à fait.
J'avais un doute.
C'est ça. Et il y a aussi Diane Kruder dans cette distribution Joyeux Noël de Christian Carion, film de 2005. Voilà comment ça se fait, ce blind test spécial œuvre de la Première Guerre mondiale. C'était pas si évident parce qu'il y a moins de films consacrés à la Première Guerre mondiale
qu'à la deuxième,
que de films consacrés à la Seconde, voire au Vietnam, évidemment. Cette rediffusion d'une chronique de 1917 et du blind test qui l'a suivi vous a donc donné l'occasion de jouer. 1917, film de Sam Mendes, est disponible évidemment en VOD. Alors, autre film disponible en VOD, c'est Un divan à Tunis, de Manélé Labidi, et c'est Marine qui nous en parle de chez elle.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
J'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohamed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi y a Poutine ?
Je viens travailler ici.
Quel travail ? Il n'y a pas de travail ici.
J'ai installé mon cabinet sur le toit.
Un cabinet de psychanalyste, Tony Fitoni.
T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon ? Avec moi, tu deviens millionnaire.
À 35 ans, Selma, qui est psychanalyste, décide de quitter la France pour venir exercer son métier dans la banlieue de Tunis, dont elle est originaire. Mais naturellement, rien ne va se passer comme prévu. Selma fume, elle est tatouée, elle est célibataire, elle est indépendante. Autant de choses qui, chez une femme, continuent de froisser la société tunisienne encore traditionnelle. Elle va d'abord se heurter à la méfiance des habitants du quartier, assez peu enclins à venir s'épancher sur un divan, se retrouver au cœur des problèmes de sa propre famille et devoir composer avec des policiers corrompus et une administration ubuesque.
Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez ?
Ah, Inch'Allah, Inch'Allah.
S'il vous plaît, oui ou non ?
Inch'Allah.
Pourquoi t'es rentrée, Sam ?
Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi ?
Dans un divan à Tunis, l'intime est politique. Il est question, à travers le regard de cette psychanalyste, de la lente résilience du peuple tunisien qui doit réapprendre à vivre après des années de dictature. Et la force du film, c'est bien sa manière truculente et bienveillante de dépeindre cette société tunisienne. Sa force, c'est également l'optimisme salutaire dans lequel il baigne. C'est une comédie qui sait demeurer dans la légèreté sans jamais, pour autant, être vaine ou superficielle. La réalisatrice Manelé Labidi parle de ce qu'elle connaît bien, la double culture, puisqu'elle possède elle-même la double nationalité française et tunisienne. Et elle fait appel à Golshifteh Farahani pour interpréter le rôle de Selma. Un choix extrêmement judicieux, puisqu'en dehors de son indéniable talent d'actrice, Golshifteh Farahani a acquis une stature de symbole en s'expatriant volontairement de son pays d'origine, l'Iran. Elle incarne avec force et nuance ici ce que l'on appelle les repates, ces personnes immigrées qui reviennent travailler dans leur pays d'origine, et plus particulièrement ici les jeunes immigrés en France ou en Europe qui, après le printemps arabe, après la Révolution, ont fait le choix de revenir s'installer en Tunisie, en se heurtant souvent à une forme de rejet de la part des Tunisiens qui les considèrent comme des exilés. La réalisatrice, elle-même âgée de 36 ans, choisit le biais de la comédie pour parler de cette nouvelle génération qui porte à bout de bras la renaissance du pays. Les comédies tunisiennes qui arrivent sur les écrans français sont rares, voire inexistantes. C'est donc un véritable plaisir que de découvrir Un divan à Tunis, premier film réussi, un véritable feel-good movie et une chronique très lumineuse de la société tunisienne, doublée d'un très beau portrait de femme.
Est-ce que vous recevez des hommes chez vous ?
Des hommes et des femmes.
Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées.
Sexe prison.
Vous me garantissez que je n'aurai plus de difficultés dans ma vie ?
Un divan à Tunis, une douce comédie disponible en VOD, comme la flopée de films que vous propose Manu. Ils font partie du catalogue de Carlotta. L'éditeur a décidé de proposer de bonnes vieilleries.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
En ces temps de confinement, en fait, Carlotta a la bonne idée d'ouvrir son propre vidéoclub, proposant ainsi en VOD quelques films d'un catalogue riche et exigeant. Alors pour le moment, seuls une vingtaine de films sont accessibles. Vous pouvez voir les premiers films de Miloš Forman, King of New York d'Abel Ferrara, Othello d'Orson Welles ou encore Affreux, sale et méchant d'Ettore Scola, parmi les classiques. Mais je vais m'intéresser à trois films cultes qui composent une grosse partie des sorties DVD Blu-ray de Carlotta, éditeur, qui brise en fait les barrières entre les genres et les formes. Schizophrenia, Basket Case et Schlock. À noter d'ailleurs que ces films sont proposés au tarif de 2,50€ le premier mois. Début des festivités par le plus glauque des trois, en fait, hein, sans doute. Pas le plus facile à voir en ce moment, l'incontournable Schizophrenia, mais en même temps, rien de plus terrible que de voir finalement des films de vacances et notamment de plage en ce moment. Alors une fois n'est pas coutume, hein, le terme culte convient idéalement à l'unique long métrage de l'Autrichien Gérard Kargl, dispo depuis longtemps en Blu-ray et disponible donc en VOD chez Carlotta. La puissance formelle de Schizophrenia transcende littéralement un récit morbide mais classique dans sa construction. Le prologue narre à la façon d'un journal de bord le parcours du personnage central, de son enfance à son incarcération, pour un meurtre gratuit. Alors jugé comme conscient de ses actes, il purge une peine de 10 ans de prison. À sa sortie, il n'a qu'une obsession en tête, tuer à nouveau. Il se réfugie dans une maison isolée et va s'en prendre aux trois résidents des lieux, une vieille dame malade, son fils handicapé d'ailleurs, et à sa fille. Le scénario minimaliste tient sur une feuille de papier, mais le traitement impressionne. Cauchemar pelliculé suivant les agissements d'un schizophrène, Hanks embarque le spectateur médusé vers un voyage au bout de l'horreur aussi fascinant que repoussant. Impossible de détourner les yeux devant les crimes horribles perpétués par le protagoniste principal. Comme si dès les premières images, on nous avait un peu drogués pour rester scotchés devant un spectacle inconfortable. Douce et réfléchie, la voix off est l'antithèse du corps hystérique, incohérent, en surchauffe, qui s'agite à l'écran. Et pourtant, cette voix et ce corps ne font qu'un. Cette utilisation d'une voix off qui ne raconte pas ce qui se passe à l'écran, mais à l'intérieur d'un cerveau dérangé, provoque une forme d'empathie déroutante. Le choix du réalisateur, hein, de réduire au minimum les dialogues, ne laissant planer sur son film que cette voix intérieure, rend finalement subjectif tout ce à quoi nous assistons. D'autant que la mise en scène, aérienne, comme dans un rêve éveillé, est d'une stupéfiante beauté, tranchant avec le réalisme complaisant du propos. La caméra est en mouvement constant, elle flotte. Le recours systématique à la plongée provoque une atmosphère anxiogène écrasante. La technique d'ailleurs utilisée sort tout droit de l'imagination du chef-op. Zbigniew Rybzinski a utilisé un système de réflexion par miroir pour filmer Angst. Angst, c'est le titre original du film. Cette expérimentation formelle nous gratifie de plans d'une incroyable audace et jamais vue ailleurs. La caméra devient alors une sorte d'espace mental étouffant. La musique électronique de Klaus Schulze, hein, figure importante du rock électronique des années 70, hein, renforce cette ambiance irréelle et cauchemardesque. Gérard Carle sonde de l'intérieur la psyché malsaine de ce tueur pathologique qui finit par contaminer l'écran, dominé par l'interprétation hallucinante d'Erwin Leder. Peut-être pas le film idéal en ce moment, mais un pur chef-d'œuvre qui date du début des années 80 et particulièrement en 82, qui était très très connu d'ailleurs en VHS à l'époque, hein, sorte de film culte incontournable et qu'il ne vous faut pas rater. Plus simple, moins glauque, plus léger, mais toujours aussi violent. Hein. Je vais parler là de Frères de sang, Basket Case. Le jeune Duane Bradley erre dans les rues de New York au milieu d'une faune de frics en tout genre. Sauf que lui se trimballe avec un panier en osier qui contient son frère siamois, Belial, un vrai frics pour le coup. Et qui ne ressemble pas à grand chose d'identifiable. Une enveloppe assez informe et pathétique. Il cherche à se venger des médecins qu'ils ont séparés pendant l'adolescence. Alors tourné avec un budget dérisoire, un Basket Case représente, on va dire, la quintessence de la série B des underground des années 80, hein, qui empilait donc les étagères des vidéoclubs des années 80. Alors Frank Henenlotter est un vrai impur, hein, quelqu'un qui croit dur comme fer à ces histoires malsaines et déchirantes. Cette plongée cauchemardesque au cœur d'un drame familial presque plausible, hein, frappe par son absence de second degré. Ce qui n'exclut pas l'humour, mais un humour noir et vachard qui remue aux tripes, lié au sort tragique qui unit les deux frères siamois. Alors certes, le film souffre de problèmes liés au ridicule budget et aux conditions de tournage. La direction d'acteur est approximative, et Henenlotter ne sait pas toujours ordonner ses bonnes idées. La photo granuleuse est assez moche, et les effets spéciaux un peu ringards. Mais paradoxalement, cet aspect amateur touche et inquiète en même temps. Les faiblesses évidentes de ce premier long-métrage renforcent ses qualités. Filmage à la rage et galerie de personnages très allumés, aux tronches pas possibles, des corps ultra-réalistes créant une ambiance malsaine. Alors tourner sans autorisation dans les quartier interlope de New York, Basket Case prend le pouls de la jungle urbaine. Cet aspect underground flirtant avec le documentaire est en phase avec d'autres films radicaux tournés à la même époque, notamment, et on peut les citer, Driller Killer d'Abel Ferrara ou Maniac de William Lustig. Une épaisseur et une authenticité cruelle se dégagent de ce mélo gore, nihiliste et curieusement sentimental. Il n'existe pas d'échappatoire pour nos frères de sang toujours obligés de fuir, de vivre en autarcie. Duane trimballe son étrange panier comme un fardeau auquel il ne peut se soustraire. Sa part monstrueuse vit à l'intérieur. Alors en dépit de ces meurtres sauvages et de ces images dérangeantes, Frank Henenlotter ne s'écarte jamais de son sujet, ne sombre jamais aussi dans la gratuité et signe, on va dire, un véritable film d'auteur constitué comme ça à l'intérieur d'un système de films de série B. What's in the basket? Open it, if you dare. Et pour finir, une petite friandise, hein, sympathique et puis quand même très très ludique, hein. Schlock, de John Landis. Alors, au début du film, une voix commence, hein, par ces mots sous forme de fausse bande-annonce à l'intérieur du film, hein, après Naissance d'une nation, Autant n'emporte le vent, 2001 l'Odyssée de l'espace, Love Story. Mercredi prochain, vous allez voir donc Schlock. From the dawn of man comes Schlock. D'emblée, le monstre, c'est un gorille, hein, tout ce qui est plus inoffensif. D'ailleurs, c'est John Landis lui-même qui endosse le costume, hein, qui est limite grotesque. Hein. Les images suivantes nous montrent une succession de corps étalés au sol que la caméra parcourt avec un joli plan séquence. Hein. Aucun sentiment d'angoisse face à ce génie qui distille d'emblée une des marques de fabrique de John Landis, alors à peine âgé de 21 ans, le film date de 71, hein, le sens de l'absurde, le goût du slapstick et de la référence distanciée. Le futur réalisateur des fabuleux Blues Brothers et du Loup-Garou de Londres signe une comédie imparfaite et décalée avec cette œuvre de jeunesse suivant les aventures pittoresques du tueur à la banane. Le scénario n'est pas très élaboré, il ressemble à une suite de scénettes mis bout à bout, mais dans laquelle le réalisateur s'en donne à cœur joie pour enchaîner sans vraiment de cohérence des séquences cultes. Alors on retiendra particulièrement ce moment où Schlock, ce gorille, hein, qui filme au ralenti sur la musique de 2001, qui vandalise une épicerie pour ne prendre que des bananes. Alors fauché, mais drôle, et puis plein de charme, hein, Schlock fut néanmoins un échec à sa sortie, le public visé n'étant pas très défini. D'ailleurs, Landis destinait son film à un jeune public, hein, à l'origine, alors que son mentor, souvenons-nous, Roger Corman, qui est quand même quelqu'un, lui conseillait, hein, fidèle à sa réputation, de rajouter des nichons s'il voulait espérer un petit succès en salle pour son film d'exploitation décalé. Hommage d'ailleurs absurde, mais quand même extrêmement sincère au King Kong de 1933. Alors aujourd'hui disponible dans une superbe copie, Schlock peut être vu comme le brouillon des futurs travaux de John Landis, source d'inspiration pour tout un humour qui va des Zaz, ce qu'on dit les Zaz, c'est cette équipe qui a réalisé Y a-t-il un pilote dans l'avion, jusqu'au nul, voilà. Et d'ailleurs, Alain Chabat est un fan absolu du film de Landis, pas très étonnant. Hein. Ce film est disponible donc en VOD chez Carlotta, et n'hésitez pas, c'est vraiment une merveille. No one is safe from Schlock. Schlock.
Schlock. Schlock. Merci Manu, et bien voilà comment s'achève Cinérama.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
On ne sait pas encore quand vont rouvrir les cinémas, mais nous, ce que l'on sait, c'est que la semaine prochaine, eh bien, nous serons là. On vous souhaite d'ici là de bons films.
This is Cinérama.